I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Bonjour Benjamin.
Messieurs, Alain, bien le bonjour.
Eh bien, comment ça va?
Bah, ça va bien, écoute, ça prépare de manière intense puisqu'il y a 9 matchs qui arrivent à 19h, donc quand il faut préparer 9 matchs, ça fait un peu de taf.
Alors, un peu de contexte, Benjamin, on voit que tu es dans une salle, ça ressemble pas à une pièce classique, c'est une cabine de commentaires de ce que je vois.
Mais c'est la fameuse cabine 5,
pour d'accord.
Ceux qui suivent un peu la NFL, la NBA, etc. sur Bein, avec un écran derrière là qui peut être allumé, dans lequel on peut mettre des images, et etc. Je peux te faire un petit tour rapide.
La visite.
Voilà. De l'autre côté, les écrans. Ça surprend souvent les gens, parce que les gens n'imaginent pas qu'en fait, on commente nous sur des écrans qui sont 10 fois plus petits que ce qu'eux, ils ont chez eux dans leur canapé. Les écrans, ils sont... comme ça, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. À Sisplay, nous, on en a un seul au milieu, juste sous la caméra. Donc, je crois que ça doit être 24 pouces ou un truc comme ça.
C'est ça.
Donc,
Oui, des fois, on voit pas certains trucs que vous voyez dans votre canapé parce que y a un peu moins de détails.
Ouais, c'est pas tout à fait le même niveau. Bon, merci beaucoup, Benjamin, d'être avec nous. En tout cas, ça fait très plaisir de t'avoir. C'est ce que je disais à nos auditeurs juste avant que tu arrives. En fait, ça s'est fait parce que tu es venu au Hard Rock Café à la rentrée, juste avant les premiers matchs. Et tu nous as dit, le traitement des Lions sur TDA, c'est pas tout à fait ce qui te convient.
Bah, je vous ai entendu parler d'eux quand vous avez fait vos previews et tout, et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de critiques, personne ne les voyait. Enfin, à un moment donné, de là à dire qu'ils étaient favoris de la division avant la saison, ok, je peux comprendre qu'on se pose des questions, c'est les Lions, ça restera les Lions, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui voyait plein d'autres équipes avant les Lions, et ouais, ça me dérange un peu.
Bon, alors, 3 victoires, 1 défaite, pour l'instant, ils ont remis les pendules à l'heure. Est-ce que tu es satisfait du début de saison?
Oui, satisfait, oui. Tu m'aurais dit ça après les 2 premiers matchs, je t'aurais dit, même si j'avais tablé sur un 1-1 après les 2 premières semaines, je ne le voyais pas forcément dans ce sens-là, et je trouvais ça très dommage de gagner à KC pour ensuite perdre à la maison contre Seattle. Mais en même temps, bon, Seattle, de toute façon, c'est notre bête noire depuis des années et des années. La dernière fois qu'on a fait une wild card, c'est eux qui nous sortent. L'an dernier, c'est eux qui nous privent des playoffs. Bref, on n'aime pas Seattle. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est comme ça. Là, maintenant que les 2 matchs d'après sont passés, que clairement la défense a step up, et quand je vois le contenu du match de jeudi que j'ai eu le plaisir, la chance de commenter, même s'il y a eu ce petit trou d'air, 3e début de 4e carton, ouais, je suis satisfait. Évidemment, on n'est pas arrivé, mais 3-1, c'est bien.
Alors, on va faire un point un peu global avec toi, Benjamin, sur le début de saison des Lions. On va poser des questions très simples qui vont nous permettre de définir si on est oui ou non face à une grande équipe, d'accord ? La première question quand on parle d'une grande équipe NFL, c'est est-ce qu'il y a un grand quarterback ? Est-ce que les Lions ont un grand quarterback ? J'essaie de te mettre à l'image les stats de Jared Goff, voilà. Est-ce que les Lions ont un grand quarterback avec Jared Goff ?
J'ai envie de répondre oui mais non. C'est pas un grand quarterback en lui-même, mais c'est un grand quarterback dans ce système-là avec ce coordinateur offensif qui est Ben Johnson. Je pense qu'il a complètement cerné le personnage, comment l'utiliser, limiter les erreurs qui étaient très nombreuses avant. Bon, il y a quand même eu un pic sur chacun des trois derniers matchs, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà. Quand je vois, pour reprendre le match de jeudi, se faire pic sur le troisième snap du match et être capable de faire ce qu'il a fait derrière en première mi-temps. Alors oui, la O-line est bonne, mais il manquait quand même quelques joueurs, etc. C'est un grand quarterback dans ce système-là avec ce coordinateur offensif-là.
C'est vrai que l'an dernier, 29 touchdowns, 7 interceptions, cette année 6-3, ça reste, c'est très très solide. On va dire qu'à minima, c'est peut-être pas une superstar, mais est-ce que ça suffit pour aller chercher un titre si tu as une équipe solide autour ?
Ça suffit pour aller chercher un titre de division, ça suffit pour gagner peut-être un ou deux matchs de play-off, plus, j'ai quand même un doute, il y est déjà allé et il n'avait pas spécialement été à la hauteur de l'événement, donc je pense qu'il faut aussi savoir raison garder.
C'est ce que j'allais dire, on revient un peu au final à ce qu'il a connu avec les Rams, c'est-à-dire qu'il était très très bien entouré. Il peut aller à un Super Bowl, mais c'est vrai que c'est dur d'aller chercher un match. Ça fait penser un peu à Jimmy Garoppolo avec les 49ers à une époque ?
Un peu, il y a un peu de ça, clairement, même si Garoppolo, ça a très souvent été up, down, up, down, up, down. Là, si on prend quand même les performances de Goff sur la deuxième moitié de saison dernière et ce début de saison, même si, oui, il y a eu des erreurs, il y a quand même eu la série de 330 et quelques passes de suite sans aucun pic, qui était, je crois, la troisième meilleure de l'histoire, ce qui n'est pas rien non plus. Et ça montre que ça matche bien vraiment, que toutes les pièces mises côte à côte matchent bien. Donc, bon QB, très bon QB pour ce système-là.
Ouais, j'allais dire, il y a Boomer sur le chat qui nous dit « Il est meilleur que Garoppolo ou Carr ». C'est vrai que, mine de rien, il est plus solide que Garoppolo, il est devenu plus régulier. Hein.
Aujourd'hui, si on me demande lequel des trois je prends Jared Goff. On m'aurait posé la question il y a un peu plus d'un an, au début de la saison dernière, j'aurais mis Jared Goff à la poubelle en dernier direct. Oui. Mais il m'a prouvé que j'étais un hater, pas dans le bon sens du terme et pas pour les bonnes raisons. Donc je fais amende honorable et monsieur Jared, si tu m'écoutes.
Et alors, j'ai plus l'âge des deux autres en tête, mais il a 28 ans, donc à mon avis, c'est le plus jeune en plus.
Et pour l'instant, il est sur un contrat qui n'est pas trop cher. Alors je serai le front office des Lions, j'essaierai de négocier une prolongation s'ils veulent vraiment le garder rapidement. Parce que s'il continue à jouer comme ça et qu'il y a des résultats, bah, le contrat, il va, vu les derniers qui ont été signés.
Il
ouais.
Y a Fabien Aubard sur le chat qui nous dit « C'est fou, je découvre cette année qu'il y a des fans des Lions en France. »
C'est vrai que tu es un des rares
représentants publics, on va dire. Ils t'ont pas approché pour un rôle d'ambassadeur ou quelque chose comme ça ?
Non, mais là aussi, si jamais ils sont sur Twitch et qu'ils regardent, je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux faire des OP, récupérer quelques maillots, aller faire un petit tour au Ford Field avec grand plaisir.
Ils étaient venus en Europe il y a quelques temps. Ils sont pas dans le programme cette année, mais ils étaient venus il y a pas
ils
si longtemps.
Ils sont venus une ou deux fois à Londres,
ouais,
je crois.
Ils sont venus au moins une fois, ça c'est sûr. Mais... la question était posée sur le chat de Guigui Twig notamment, qui demandait ce que tu penses de Dan Campbell. C'était ma question suivante. Pour avoir une bonne équipe, avoir un prétendant, il faut avoir un bon coach. Dan Campbell est-il un bon coach ? Bilan de 20 victoires pour 29 défaites. Pour l'instant, il reste dans le négatif parce qu'il y a une première saison qui est évidemment très très difficile. Mais est-ce que tu crois en Dan Campbell ? On va le formuler comme ça.
Alors, moi, j'ai une vraie relation love-hate avec Dan Campbell. Love parce que j'adore ce qu'il a amené et s'il m'a beaucoup fait rire, presque un peu jaune avec sa fameuse déclaration de conférence de presse d'introduction, on va péter des rotules, tout ça et tout. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va encore une fois ? Avec qui est-ce qu'on est parti ? Et force est de constater que cette mentalité-là, ce côté grit, comme on l'a beaucoup vu dans le Hard Knocks l'an dernier, il a su l'amener à une franchise qui n'était pas du tout de ce genre-là depuis très longtemps. Il a su faire passer le message auprès de tous les membres du staff, auprès de tous les joueurs. Et je me souviens très bien d'un discours justement dans le Hard Knocks de l'an dernier où il avait fait cette espèce de geste là comme ça, on va monter en pente ascendante, on va encore galérer, on va encore perdre des matchs, mais l'important ça va être la courbe de progression et où est-ce qu'on veut aller. Et tout ça clairement quand on regarde les choses aujourd'hui, quand on regarde l'effectif, comment il a été construit, évidemment il n'est pas seul, mais comment il a été construit, quelles sont les pièces qui sont en place, quelle est l'évolution au-delà des résultats, de la prestation aussi match après match, etc. Il n'a pas menti. Et pour l'instant, on ne peut pas lui enlever qu'il a fait des Lions, peut-être une des équipes must-watch de ce début de saison. ce qui n'a pas été le cas là aussi depuis des décennies et des décennies, même quand il y avait des résultats à peu près corrects avec Stafford et Calvin Johnson, les Lions, c'était pas entre guillemets un peu America's Team, l'équipe que tout le monde a envie de voir jouer parce que c'est toujours sympa, il se passe plein de trucs des deux côtés du terrain et tout. Maintenant, il a pour moi des limitations, et peut-être que là aussi je me trompe, et s'il faut, je ferai un mandat noir, mais genre sur les quatrièmes tentatives, alors il s'est heureusement calmé du côté de Green Bay, et celle qu'il a pris à la fin et qu'il a joué pour gagner le match a été parfaitement exécutée, mais ce côté go for it à chaque fois, jouer les quatrièmes et tout, oui, par moment ça paye, et genre à Kansas City, peut-être que le fake punt il change le match, et... mais bah, typiquement sur le match de Seattle, tu dois avoir des points en plus si tu prends les field goals quand tu peux les prendre, qui font que tu te retrouves peut-être pas dans cette situation à la fin du match. Donc, il a tendance, j'ai l'impression quand même, à un petit peu plus réfléchir et pas forcément systématiquement y aller. Oui, il y a une tendance générale en NFL où on voit beaucoup plus de quatrième tenté qu'avant. Mais je pense qu'il va devoir apprendre à être encore un peu plus pragmatique s'il veut être le head coach parfait qui peut viser plus que les playoffs. Pour l'instant, objectif playoffs, s'il veut aller viser encore plus haut, un peu comme Jared Goff, il y a encore quelques petits trucs qui doivent changer pour qu'on puisse dire légitimement Super Bowl contender. Et s'ils y vont, ils auront une chance. Ça commence par lui. Maintenant, encore une fois, il est tellement écouté, j'ai l'impression, et tellement respecté par tout le monde. Je n'ai pas entendu depuis qu'il est là un mot plus haut que l'autre d'un joueur, d'un coach, d'un machin sur lui. Tu as vraiment l'impression qu'il emmène tout le monde avec lui. Et Ben Johnson est entre autres resté, alors qu'il avait quand même deux voire trois propositions de head coach pour continuer l'aventure avec Dan Campbell. Donc j'ai quand même tendance à répondre plutôt oui, c'est un grand coach.
Il y a plusieurs styles de coach NFL. J'ai l'impression que Dan Campbell, il rentre vraiment dans la case des motivateurs. C'est-à-dire que c'est pas un technicien à la Sean McVay, à la.
C'est pas un mastermind.
Voilà, Mike McDaniel, etc. Il est pas du tout dans cette case-là. Comme tu dis, il y avait eu cette conf de presse, en effet caricaturale du coach US qui se tape sur le torse et qui dit qu'ils vont casser la tronche à tout le monde. Mais ça a l'air de marcher. C'est vrai qu'il a donné une identité à ses Lions. On parlait dans le compte-rendu du match tout à l'heure avec Nitinia, du fait qu'ils avaient par exemple largement dominé Green Bay dans les tranchées. C'est ça leur identité actuelle en fait?
Bah, clairement, c'est ça aussi, c'est un des gros changements pour moi. C'est que historiquement, on peut pas dire que ni la O-line ni la D-line étaient dominantes sur les 20-30 dernières années. Beaucoup de gens disent, et moi je suis le premier à le penser aussi, que pour gagner un match de foot, ça commence dans les tranchées, comme tu dis, et sur les deux lignes. Et là, bah, on a, je pense, si tout le monde est là, imaginons qu'il n'y a pas de blessés, si tout le monde est là, je pense qu'on peut dire, sans qu'il y ait forcément de débat, qu'on a une O-line qui est top 5 NFL et qu'on a une D-line qui, si elle ne l'est pas encore, a un vrai potentiel top 10 NFL. Ça, quand tu pars de ça, franchement, il y a un vrai truc qui fait que tu as des arguments solides de base et derrière, tu n'as plus qu'à laisser jouer tes playmakers pour arriver à avoir le résultat que tu comptes avoir. Donc, ces deux lignes-là, moi, elles me font extrêmement plaisir. Ce que j'ai vu sur la première mi-temps à Green Bay jeudi, où j'en parlais tout à l'heure avec Lionel, avec Phil, etc., qui sont en train de commenter le match de Londres, je n'ai pas souvenir, sur les 10-15 dernières années, d'avoir vu deux lignes aussi dominantes en même temps sur une mi-temps de la part des Lions, parce que d'un côté, franchement, la protection, elle était top, alors que Decker n'était pas à 100%, que Vaitai n'est pas là. De l'autre côté, ils ont martyrisé Jordan Love toute la première mi-temps. Tu avais l'impression... que ce soit Hutchinson, McNeil, Bugs, Harris, que de toute façon, il y en a un qui allait arriver à destination à tout moment. Et rien que pour ça, bah, ça me donne encore plus envie d'y croire et de me dire que Campbell, comme tu dis, c'est un mec qui est là pour motiver. Alors oui, qui prend aussi des décisions et tout, mais qui a su s'entourer parfaitement parce que quand on parle de mastermind, lui, c'en est pas un, mais Ben Johnson, c'en est un. Ben Johnson, c'est cette nouvelle vague de génie où tu as l'impression que les mecs, ils ont toujours un coup d'avance. Et donc, si tu mets bah, les différents trucs côte à côte, tu arrives à avoir un peu ce combo global de tout ce dont tu as besoin pour avancer.
Tu parlais d'équipe à voir. Il faut le dire aussi en aparté, alors peut-être que tout le monde n'a pas connu ça, mais il faut lui reconnaître qu'il est un poil plus charismatique que Jim Caldwell. Tu parlais de l'époque Stafford, Calvin Johnson. C'est sûr qu'on a un peu plus envie de regarder Dan Campbell.
Un poil plus et un baobab plus que Matt Patricia aussi, ouais.
Oui, aussi. J'avais oublié Matt Patricia.
On l'a pas oublié.
Non, c'est vrai. On a un bon coach. On a un quarterback solide. Est-ce qu'on a une bonne direction? Là, je voulais attirer ton attention sur quelque chose quand même. Et tu l'as mentionné. Tu as parlé de la ligne défensive en devenir. J'ai l'impression qu'on drafte très, très bien du côté de Détroit depuis quelques temps. Alors, il y a eu quelques débats autour de leur dernière draft parce que c'était beaucoup de joueurs qui étaient considérés comme avec un plafond très élevé, mais voilà, des bons joueurs d'entrée qui seraient peut-être plus limités sur le long terme. Le fait est que pour l'instant, Jahmyr Gibbs est à la limite celui qu'on voit le moins, mais Jack Campbell, Sam Laporta a été très très bon, Brian Branch a été bon avant de se blesser notamment la dernière fois. Si on regarde la draft précédente, Aidan Hutchinson, c'est évidemment du très très bon, Penny Sewell l'année d'avant. C'est aussi ça peut-être qui a changé. Il draft très très bien depuis 3 ans.
Ben, on a un GM enfin à la hauteur de ce qu'il faut pour construire correctement son équipe. C'est-à-dire que avant cette année, on allait peu chercher, parce qu'on était aussi peu attractif, il faut être réaliste, sur le marché de la free agency. Brad Holmes a fait son taf. Il a l'air de drafter très bien. Et pourtant, malgré tout, j'ai été le premier, quand on a fait la draft en live, le premier tour au mois d'avril dernier, à être très sceptique sur ses choix. Mais si on regarde celle de l'an dernier, bah, à un moment donné, n'oublions pas que les Jags ont pris Trevon Walker. Merci Jacksonville. S'il y a des fans des Jags qui sont là, merci vraiment, merci, merci. On a gardé le gamin de la maison. Et plus ça va, plus je le vois et plus je me dis, ce mec peut devenir mais un monstre absolu pour les 10 prochaines années. Et surtout, les drafts, elles se gagnent rarement au premier ou au deuxième tour. Elles se gagnent beaucoup plus à partir du 4-5 et au-delà. L'an dernier, on a vu l'explosion quand même de James Houston sur la deuxième partie de saison, qui malheureusement là est blessé, mais qui a été monstrueux sur la deuxième partie de saison l'an dernier. Malcolm Rodriguez, qui était devenu Rodrigo le chouchou dans Hard Knocks et qui a fait une bête de saison aussi avec un nombre de plaquages pour perte incalculable. Et là, sur cette draft-là, j'entends beaucoup de bien de Colby Sorsdahl, qui a été pris en fin de draft aussi et qui, a priori, clairement est vraiment apprécié du coaching staff. Broderick Martin, pour l'instant, joue pas ou peu, mais a priori, ils disent aussi beaucoup de bonnes choses de lui. Et sur les mecs qui sont pris sur les deux premiers tours, parce qu'en plus, il a su faire des trades pour obtenir 4 choix quand même sur les deux premiers tours. Jahmyr Gibbs, il a montré qu'il avait un potentiel incroyable, même si je continue à dire et à penser que Gibbs, Campbell, voire Laporta sont des reach, ils sont partis probablement plus haut qu'ils auraient dû, mais Gibbs, il fait ce que personne jusque-là n'a su faire en prenant des running backs aussi haut sur ces dernières années, c'est-à-dire que ils ont mis Montgomery qui a pris la place de Williams. Montgomery performe. On ne suruse certainement pas Gibbs, ce qui veut dire que plus la saison va avancer et plus Gibbs potentiellement on aura encore dans le moteur au lieu de le cramer direct comme ont pu faire, j'en sais rien, les Steelers avec Najee Harris sur sa première saison ou ce genre de choses. Moi, je suis pas choqué du tout et pas gêné du tout. Tant que ça gagne et que ça marche et qu'on continue à grappiller des matchs à 140, 150, 160 yards au sol, peu importe l'usage des deux running backs, si ça marche, Gibbs, c'est pas grave, il vient d'arriver, c'est un gamin, il va apprendre, il sera encore meilleur, il voit le game flow, tout ça. Campbell, il fait le taf, c'est pas flamboyant, mais il fait le taf. Peut-être que certains disent qu'effectivement, il n'a pas un potentiel maximum ultra élevé, mais s'il rentre dans le système avec Rodriguez et d'autres, bon, ok, ce sera peut-être un peu cher payé, mais d'entrée, il est productif. Sam Laporta, je ne sais pas si ce qu'ils ont trouvé à Iowa avec les tight ends depuis des années, mais quasiment tous les ans, ils nous sortent un tight end de fou. Et ce qu'il fait sur les premiers matchs, au niveau des réceptions, parce que c'est le plus visible, mais aussi au niveau des blocs, il nous fait notamment 2-3 blocs qui amènent des touchdowns à la course sur les premiers matchs où le mec, tu ne bouges pas d'un centimètre. Il est parfait, pas de holding, rien. Et Deion Branch qui, clairement, là, pour l'instant, même si on voit que physiquement, ça a l'air d'être toujours un peu limite, peut être un des vrais styles de la draft parce qu'il montre que ceux qui l'envoyaient au premier tour avaient peut-être raison. Le mec, il est plus qu'NFL ready. C'est un punisher. Chaque plaquage, t'as l'impression qu'il va détruire l'adversaire. Il est rarement battu. Donc, bah, il y a un GM, là, pour le coup, qui, oui, je pense, sur les 2-3 dernières saisons, entre free agency et draft, est peut-être un des 5 meilleurs GM de la NFL. Parce qu'en plus de ça, comme j'ai dit, il n'était pas aidé jusque-là par le fait que Détroit, bah, t'avais pas trop envie d'aller à Détroit, entre la ville qui n'est pas la plus sexy des États-Unis en termes de ville, de climat, de ce que tu veux, et la franchise qui est la franchise de la loose, fallait vouloir y aller. Et quand tu vois que tu signes à la dernière intersaison du CJ Gardner-Johnson, du David Montgomery, du Cameron Sutton, du Emmanuel Mosley, d'une, il identifie bien les problèmes et il essaye bien de les régler, et de deux, les mecs commencent à avoir envie de venir à Détroit. Si tu vas en playoff cette année, et que tu gères bien ta masse salariale et tout, on est loin d'être dans la galère, bloqué avec des très gros contrats et tout, je pense que tu peux encore aller chercher 2-3 gros free agents pour la saison prochaine, notamment défensivement au niveau de la D-line ou des linebackers. Et là, tu peux devenir une vraie, vraie powerhouse avec beaucoup de jeunes joueurs qui disent on n'est pas là pour un an, mais on est là pour rester 2, 3, 4 ans. Donc, rien
ça,
à dire.
Ça proteste dans le chat. Il y a les Jets qui réclament le titre de franchise de la Louse. Hein. Je tiens à faire les...
Il y en a beaucoup hein, qui le cherchent. Les Jets, les Browns.
Il y a match.
Il y a match, tu vois. Il y a match, mais... on a quand même une vraie étiquette de loser c'est, qui est collée comme ça.
Ça fait quand même un moment clairement. Donc on le disait, bon GM, il y a des tauliers quand même potentiels de partout. Laporta, Sewell, Ragno, Hutchinson qui ont été draftés. Goff maintenant avec de l'expérience. Donc ça aussi, c'est un point positif à mettre au crédit de Détroit. Un autre paramètre qui me semble important quand même quand on veut avoir du succès et durer un petit peu, c'est d'avoir une division qu'on peut dominer. Les Patriots l'ont montré pendant des années. C'est pas toujours facile de s'en tirer quand on a des divisions un peu serrées. Et j'ai l'impression que Détroit là tombe aussi dans une très très bonne fenêtre. On a les Vikings qui sont un peu en train de s'effondrer. On a les Packers qui sont en transition et on a les Bears qui arrivent pas à redécoller. Est-ce que ça aussi, c'est quand même indirectement quelque chose qui favorise Détroit?
Ah bah. Plus que indirectement, même directement. Enfin, on en avait parlé d'ailleurs entre nous au truc à votre journée, soirée de rentrée au Hard Rock Café. Quand je disais que les Lions étaient favoris de la division, c'était aussi pour moi parce que clairement, c'est presque l'année où jamais, je ne sais pas comment évoluera cette équipe et j'espère qu'elle évoluera bien, mais c'est l'année où jamais parce que je pense que ça fait très longtemps que la NFC Nord, ça n'a pas été aussi faible que ça, entre guillemets. Je la plaçais même potentiellement comme une des divisions les plus faibles de la ligue, complètement NFC et AFC confondues, avant le début de la saison. Donc, parce que, bah, voilà, tu l'as dit, Aaron Rodgers, c'est parti. Donc, les Packers, on ne les met plus du tout dans le même lot. Il y a une petite reconstruction qui est en cours aussi. Les Vikings, je suis peut-être dur avec eux, mais à un moment, il ne faut pas se leurrer. Tu ne gagnes pas autant de matchs par une possession sans avoir un minimum de réussite l'an dernier. Et malheureusement pour eux, cette réussite, elle est complètement inversée depuis le début de la saison. Ça a encore été à chaque fois une possession, mais ils les ont tous perdus. Et les Bears, ça reconstruit, mais on se demande toujours ce qu'ils ont utilisé comme matériel pour mettre les fondations, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc oui, s'il y a bien une année où tu peux aller la chercher, et surtout où tu peux commencer, entre guillemets, à t'installer comme le patron de la division, et avoir ce petit truc en plus qu'avaient les Packers depuis plus de 10 ans, ou mine de rien, même quand sur le papier tout semblait à peu près fair and square, les mecs jouaient contre les Packers en se disant c'est quand même eux les ogres de la division, et ça leur donnait toujours un petit truc, un petit avantage en plus, un petit coup de pouce arbitral, plein de petits détails qui font que ils étaient considérés comme les papas de la division, et c'est comme un roughing the passer sur Tom Brady, il y a toujours un petit truc en plus, voilà. Et si tu la gagnes cette division, et qu'avec un peu de chance tu la gagnes aussi avec autorité cette saison, en étant assez largement devant tout du long, en gagnant la plupart, voire tous tes matchs de division, tu peux prendre ce statut et ça peut te servir aussi pour la suite. Donc oui, clairement, la division est beaucoup plus faible cette année. Il faut s'en servir et il faut en profiter, parce que si tu laisses passer la fenêtre, c'est comme une fenêtre quand tu es prétendant au Super Bowl, elle dure jamais très longtemps. À quelques exceptions près, elle dure jamais très longtemps. Donc il faut clairement la saisir.
On voit le calendrier à l'écran, les Buccaneers, les Ravens, les Raiders, ils se reposeront en semaine 9. Là déjà, les trois suivants sont dans leur corde. Derrière, Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, Vikings, Cowboys et Vikings. Il y a peu de matchs où ils seront outsiders. J'ai envie de dire que si tu regardes, peut-être Cowboys, on va dire. Et puis derrière, ils sont...
Non, dans l'état actuel des choses, je suis d'accord avec toi. Le calendrier était compliqué l'année dernière. Il est beaucoup moins sur le papier cette année, notamment quand on regarde les trucs des Américains, leur strength of schedule, etc. Le seul truc qui est un peu compliqué, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une difficulté pour eux, c'est que je trouve les matchs en déplacement, au-delà de la division, beaucoup plus durs à négocier que les matchs à domicile. C'est-à-dire qu'on a plutôt des adversaires du calibre en dessous à la maison et calibre égal, voire calibre supérieur en déplacement. Ce qui n'aide pas si tu mets l'inverse, tu peux pondérer avec ton avantage du terrain, etc. Mais on va dire que dans le pire des cas, tu dois finir cette saison à 9-10 victoires si tu tiens ton standing, et tu peux monter à 13 si vraiment tout se passe très bien.
C'est vrai que Baltimore, c'est jamais facile là-bas. Les Saints, c'est jamais facile à la Nouvelle-Orléans. Les Chargers, on va dire que même Détroit peut avoir plus de supporters là-bas. Hein, ça doit pouvoir
c'est pas
se
fou.
Trouver.
D'ailleurs, on a quand même beaucoup de supporters, soit à Arrowhead ou au Lambeau Field. On a vu beaucoup d'Honolulu Blue dans les tribunes quand même.
Non, c'est vrai que ça reste... Il y a quand même l'époque Barry Sanders. Je voyais passer sur le chat, il y avait des fans de l'époque Barry Sanders. Ça semble être un calendrier plutôt abordable. Il faut qu'on arrive à trancher maintenant. On arrive dans la red zone, justement, pour nous, Benjamin. Donc, jusqu'où vont les Lions cette année? T'as dit 9-10 victoires. C'est quoi le prono?
Moi, j'ai envie d'être optimiste. Moi qui suis plutôt d'un naturel pessimiste avec mes différentes équipes sportives qui sont pas toutes des équipes très titrées. j'ai envie de croire à minima au divisional round. Ouais. Honnêtement, Conference Championship, je signe tous les jours et même si sur le moment, s'il y a une défaite, j'aurai les boules comme pas possible parce qu'on se dit on est à ça. Si jamais il y a finale de conférence, déjà c'est un miracle. Et vraiment, il y a encore quelques années de ça, je me disais jamais de ma vie, je verrai les Lions de toute façon aller là. Mais si déjà il y a divisional round, c'est bien.
Mais donc voilà. Là, ça veut dire que la division, c'est bon.
Titre de division,
divisional round.
Selon le bilan, après avoir, je pense pas que tu puisses être en bail. Donc, tu t'accueilles une wild card, tu gagnes ta wild card et tu perds à l'extérieur du divisional round.
Plus globalement, tu disais que c'était une franchise un peu maudite. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit les coachs, que ce soit même la retraite prématurée de Calvin Johnson, qui rappelait un peu celle de Barry Sanders, ce genre de choses-là. Est-ce que maintenant, après tout ce qu'on a listé, c'est-à-dire le coach, le quarterback, la direction qui drafte mieux, est-ce qu'on peut dire que les Lions sont une équipe sérieuse? Parce que rien que ça, en fait, ça paraissait pas gagné il y a quelques années.
Oui, complètement. Il y a eu un vrai virage sur les trois dernières saisons qui a été opéré. La famille Ford a enfin fait des choix judicieux, ce qui n'a pas toujours été, le cas. Et oui, j'ai l'impression, mais même quand tu lis ce qui s'écrit sur les Lions aux États-Unis, quand tu entends ce qui se dit dans les émissions et sur les plateaux télé, etc., dans les podcasts, j'ai l'impression que bah justement, le côté Lions loser ultime et loser forever, il est un petit peu en train de partir, mmh. Et que les gens commencent à parler des Lions en bien et ont envie de parler des Lions en bien parce qu'en plus, il y a ce côté rafraîchissant qu'on aime aussi tous dans le sport quand tu as une équipe qui historiquement n'est jamais là et d'un seul coup fait partie de celle dont tu parles, celle qui fait partie de celle que tu as envie de regarder, etc. Ça change un peu la façon de raconter l'histoire. Donc oui, je pense que Détroit aujourd'hui, alors après, on va toujours garder dans un coin de la tête l'historique de la franchise qui fait que tu sais qu'à tout moment ça peut péter, mais si au moment où on se parle là, maintenant, tout de suite, oui, ils sont sérieux.
Je vais continuer à te pousser un petit peu plus dans l'optimisme. Sur le moyen terme, est-ce qu'ils peuvent s'établir parmi les équipes très solides, voire prétendant en NFC?
Si les mêmes personnes restent en place, oui. Parce que, bah, a priori, on a l'air d'avoir, comme je disais, un très bon GM. On a un coach qui emmène tout le monde derrière lui. J'espère véritablement que la construction, si jamais ça va en playoff cette année avec Ben Johnson, pourra continuer parce que j'ai peur, très peur qu'ils soient encore très sollicités pour des postes de head coach à la prochaine intersaison. Mais si toutes les pièces restent en place et que les mecs ont vraiment ce truc de se dire on va transformer cette franchise de loser en franchise qui peut prétendre au Super Bowl, voire qui peut même prétendre au titre, l'histoire elle est magnifique. Alors évidemment, c'est pas l'histoire qui remplit le frigo et le porte-monnaie. Mais ce serait incroyable que ces mecs se disent tant qu'on n'y est pas arrivé, on reste ensemble et on continue pour aller au bout de ce projet.
Donc la victoire au Super Bowl, c'est l'an prochain, si je comprends bien.
Allez, dans les 3 ans.
Dans les 3 ans, mais c'est bien, c'est une belle fenêtre hein, déjà, mine de rien. Ça semble être la fenêtre aussi dans la NFC Nord, clairement, sur le rapport de force actuel. On termine et je te laisse finir avec ça. C'est quoi le scénario de rêve? Il y a quelqu'un qui disait une défaite en divisional contre les Cowboys comme en 2014, ce serait bien. On va dire qu'ils battent les Cowboys en divisional. Qui t'a envie qu'ils battent au Super Bowl cette année si, dans un scénario de rêve? La saison se passe comme sur des roulettes, qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Bah, dans un scénario de rêve, il faut qu'on batte les Eagles en finale de conférence pour que je puisse chambrer Laurent Marceline pendant plusieurs mois. Parce qu'on a chaque année un petit bet entre nous. À chaque fois qu'il y a des Lions-Eagles, le perdant doit remplir un gage tout au long de la saison vis-à-vis de l'autre. Donc là, même si c'est en finale de conf, je prends. Et puis, bah, les Chiefs de Peter au Super Bowl. Histoire de faire commencer la saison en battant les Chiefs, finir la saison en battant les Chiefs, ce serait pas mal. Ce serait un petit scénario sympa.
Et puis tu joins l'utile à l'agréable. T'as décidé de battre toute la team Bean, en fait, quoi, c'est ça?
Ouais, bah, quitte à faire pour pouvoir faire le barbeau un peu derrière, déjà que j'avais fait le malin pendant une semaine, comme je l'ai jamais fait de ma vie vis-à-vis d'eux après la première semaine, et que je suis bien retombé de haut en week 2, donc bon, allons jusqu'au bout.
Et ben, merci beaucoup, Benjamin Bernard.
Avec grand plaisir.
On te retrouve sur Bein Sport dans quelques instants. Bah alors du coup, dans 45 minutes.
Quelle heure il est? Il est 13h15, bah dans 45 minutes. Voilà.
On est dans les timings, t'as le temps de te préparer, on est bon.
9 matchs pour le prix d'un.
Bon, ça va, je te relâche à l'heure, on est bien.
Ouais, on est bien.
Nickel. Merci encore Benjamin et puis bah bonne chance pour cette saison avec les Lions qui est quand même plutôt bien commencé. On te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et puis bah la porte est ouverte hein, maintenant que tu connais le chemin, il y a pas de problème, c'est un plaisir.
Quand vous voulez, vous avez le numéro. Merci à vous pour l'invite.
Merci beaucoup Benjamin, à très bientôt, bonne fin de journée et bon Red Zone sur Bein Sport.
Merci.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.